France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
C'est en 1951 que François Mauriac fut l'invité d'André Gillois pour l'émission « Qui êtes-vous ?». François Mauriac parlait, entre autres, du journalisme, lui qui allait, l'année suivante, se lancer dans une aventure qui durerait jusqu'à sa mort, en 1970. La tenue, à la Table Ronde, puis à l'Express, et enfin au Figaro littéraire, de son fameux bloc-notes. En deux volumes, ce bloc-notes est réédité dans la collection Bouquins. Premier tome, 1952-1962, deuxième tome, 1963-1970. Éditorial, portrait, pamphlet, goût pour la polémique, combat en faveur de la décolonisation, 20 ans d'histoire de France. Mais nous ne sommes pour l'heure qu'en 1951. Et François Mauriac parle de son théâtre, de ses personnages, de ses romans, de son enfance, d'une enfance sinon très heureuse, du moins très intense, dans une émission qui, rappelle André Gillois, est un jeu et non un jugement. « Croyez que je ne serais pas catholique si je n'étais pas anarchiste ?» s'amuse François Mauriac, qui conclut cette émission, diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 7 janvier 1951, par ces mots « Je suis rancunier, je suis de ces chrétiens qui n'oublient rien. »
Veuillez écouter « Qui êtes-vous ?» une émission d'André Gillois. Aujourd'hui, « Qui êtes-vous ?» François Mauriac.
Monsieur François Mauriac, je veux d'abord vous remercier d'avoir bien voulu vous prêter à ce petit interrogatoire et nous excuser à l'avance de notre curiosité, voire de notre indiscrétion, mais il faudrait que nous arrivions à vous faire dire en quelques minutes un peu plus que ce que vous avez dit depuis 30 ans pour nous. Cela semble impossible. Je voudrais également rappeler aux auditeurs, avant de commencer, que la voix de monsieur François Mauriac est assez voilée. Et je suis sûr que leur attention est très grande et que cela n'aura pas d'importance. Je vais, pour amorcer cette conversation, vous poser deux ou trois questions, si vous le voulez bien. Vous avez écrit « Je conçois le journalisme comme une sorte de journal à demi-intime, comme une transposition à l'usage du grand public des émotions et des pensées quotidiennes suscitées en nous par l'actualité. » N'avez-vous pas, depuis 1934, date à laquelle vous écriviez cela, changer votre point de vue sur le journalisme et sur votre activité personnelle de journaliste?
Je n'ai pas changé de point de vue sur le journalisme, mais ce sont les événements qui ont changé et qui ont fait de moi, n'est-ce pas, j'étais un chroniqueur en somme à ce moment-là. Je faisais des chroniques dans la page de, dans la première page de Figaro, dans le bas. Et puis, peu à peu, la politique est entrée dans ma vie de journaliste et plus précisément, elle y est entrée avec la guerre d'Espagne. C'est au moment de la guerre d'Espagne que mes chroniques ont pris un ton différent et les événements se sont succédés, n'est-ce pas, de plus en plus dans ce sens, dans ce sens-là, si vous voulez. Et je me suis réveillé à la Libération, en somme, avec l'article politique du Figaro. Et je suis devenu un écrivain politique et je n'ai plus... Donc, quand j'ai voulu publier ensuite mes articles du Figaro, le quatrième tome de mon journal, ça ne correspondait absolument plus à la définition que j'avais donnée d'abord. C'est devenu un volume politique, c'est-à-dire, à mon avis, assez ennuyeux.
Je vais vous poser une autre question d'un autre ordre. Parmi les personnages que vous avez créés, y en a-t-il un à qui vous restiez plus particulièrement attaché? Et s'il y en a un, se rattache-t-il dans votre souvenir à quelques personnages réels?
En général, à cette question que l'on me pose depuis des années, je réponds mécaniquement Thérèse d'Esquerou pour que le journaliste me fiche la paix, n'est-ce pas? C'est plus simple. En réalité, je ne crois pas que Thérèse d'Esquerou m'intéresse plus que n'importe quel autre personnage. La vérité, c'est que mes livres sont, une fois que je les ai publiés, sont très détachés de moi, n'est-ce pas? Non pas que j'en ai honte ou que je les méprise. Je suis en train de corriger mes œuvres complètes, les épreuves de mes œuvres complètes. Et je suis en train de relire toute mon œuvre. Je trouve pas ça très mal. Mais je me rends compte à quel point j'avais oublié tous ces ouvrages. Enfin, à quel point ils sont nouveaux pour moi, n'est-ce pas?
Et en retrouvant d'anciens personnages, il n'y en a pas un qui prenne une valeur nouvelle.
Alors si, bien sûr, ce sont ceux qui sont le plus près de moi, n'est-ce pas? Par exemple, je suis en train de corriger les épreuves d'un de mes livres, qui est le Mystère Frontenac. Eh bien, dans le Mystère Frontenac, il y a le petit Yves Frontenac. Le petit Yves Frontenac, c'était le petit François Mauriac, bien sûr. Et dans la mesure où évidemment, quand j'ai écrit ce livre, je m'étonne même de tous les souvenirs que j'avais, de toutes les sensations de mon enfance qui revenaient. Et évidemment, ce livre m'aime beaucoup, n'est-ce pas, quand je le relis. Et il y a le petit Yves Frontenac et il y a ma mère aussi dans ce livre. Mais voyez, ce sont des raisons tout à fait personnelles et pas du tout littéraires qui font que je m'intéresse.
Alors, une toute petite question. Les mouches qui reviennent si souvent sous votre plume ont-elles été, pour le petit garçon que vous fûtes, un sujet d'aversion ou d'intérêt? Est-ce que vous aimiez aller voir jouer, aller les attraper, en fait?
Écoutez, les mouches, je les vois sous deux aspects très différents. Il y a, et c'est comme cela que je les aimais, il y a l'immense bourdonnement de la campagne d'été, car s'il y a beaucoup de mouches dans mes livres, c'est le bourdonnement qui s'y trouve surtout. Toute cette orchestration de l'été, vous savez, dans le sud-ouest, des nuits d'été, ça je l'adorais, n'est-ce pas? Mais alors la mouche animale, la mouche, comme disait Francis Jammes dans un vers qui salit tout ce qu'elle touche, n'est-ce pas? La mouche qui se vide sur les abat-jour et sur les autres choses, vous savez, à l'automne, et qui laisse une espèce de lac noir. Je les ai en horreur.
C'était déjà une répulsion de votre enfance.
Oui, je ne les aimais pas.
Encore une question, alors cette fois sur votre théâtre. Est-ce que les personnages de vos pièces de théâtre vous semblent, par le seul fait de l'interprétation qu'en donnent les acteurs, moins chargés de fatalité?
Oui. Alors, monsieur, je vous demanderai de préciser un peu votre question, parce que...
Eh bien, vos personnages, que, sous la forme des acteurs qui les interprètent, sont en somme lâchés en liberté
oui.
sur une scène. Est-ce que ça vous semble retirer une part de la fatalité que vous leur avez donnée?
Oui, en somme, cela revient un peu à me demander, est-ce que ils sont très différents des êtres que vous avez conçus. Et est-ce que vous imaginez que leur destin pourrait être différent, n'est-ce pas?
C'est cela.
N'est-ce pas? Eh bien, là, il faudrait évidemment répondre différemment pour chacun des personnages, n'est-ce pas? J'ai un jeune acteur qui est Jean Levray, par exemple, n'est-ce pas, dans ma pièce, qui pour moi... Je ne sais pas si ce sera l'avis des spectateurs. Moi, je l'aime énormément. C'est-à-dire que je trouve qu'il correspond. J'ai trouvé qu'on a été assez sévère pour lui, ou du moins qu'on n'a pas assez remarqué ses qualités. Pour moi, Jean Levray est vraiment mon personnage, n'est-ce pas? Une très grande actrice, comme Jeanne Hyolt, me paraît apporter, oui, des fatalités différentes, si vous voulez, n'est-ce pas? Ça, il me semble, enfin. Elle fait l'or de la sesque très... extrêmement convaincante et belle, mais qui est une autre, si vous voulez.
Qui ajoute quelque chose.
Oui, qui ajoute, oui. Oui, voilà le sentiment que j'ai avec elle, pas du tout avec Jean Levray, n'est-ce pas?
Jean-Pierre Morphée.
Vous venez de répondre en effet un peu à la question que je voulais vous poser. C'était la question inverse de celle d'André Chilois. Est-ce qu'au contraire, une phrase écrite dans le silence du travail et avec quelquefois le trait un peu abstrait de caractère qu'elle peut représenter dans le mouvement des répliques, ne vous paraît pas tout à coup beaucoup plus effrayante lorsqu'elle prend une résonance humaine dans la bouche des acteurs?
Oui, c'est certain. Et je crois que c'est ce que doit éprouver surtout un romancier, n'est-ce pas? Je crois que beaucoup des critiques qu'on m'a faite vient, si vous voulez, de cette transposition qui ne s'est pas faite suffisamment entre le langage de la scène et le langage du roman. Il est évident que la scène rend tout beaucoup plus brutal, beaucoup plus dur, beaucoup plus... Enfin, et détruit les nuances, n'est-ce pas? Il y a évidemment là un décalage très grand.
Jusqu'à vous surprendre vous-même.
Jusqu'à me surprendre moi-même, n'est-ce pas? Jusqu'à me surprendre moi-même.
Emmanuel Berle.
Je me demandais, en vous entendant parler au sujet du théâtre, des actrices, n'est-ce pas, si la difficulté ne tenait pas à ce que vous n'aviez pas un personnage féminin auquel vous puissiez ployer une actrice toujours la même. Et ça rejoignait une question que j'avais envie de vous poser. Étant donné que vous êtes tellement préoccupé de votre enfance, de votre adolescence, et que vous en avez si bien parlé, d'où vient que vous n'ayez pas dit la naissance, le premier amour, les premières idées que peut vous avoir donné une jeune fille, une femme, que probablement on aurait retrouvé alors dans les pièces et qui serait peut-être incarné dans une actrice plus ou moins bien.
Écoutez, ça, je n'ai pas toute mon œuvre présente à l'esprit. Et je vous dis que je ne relis jamais mes livres, mais vous m'étonnez beaucoup en me disant que dans mon œuvre, on ne trouverait pas ce que vous dites. Par exemple, dans l'art prétexte, qui est une histoire, l'histoire d'un premier amour, seulement vous ne l'avez pas
lu, vous avez raison. Non, c'est pas devenu un thème de votre littérature.
Non, ce n'est pas devenu un thème de ma littérature, mais on l'y trouve. Vous le trouveriez dans Asmodée malgré tout. Dans Asmodée, il y a tout de même le jeune anglais et la petite Emmanuelle.
Jeune Emmanuelle, vous l'avez connue réellement?
Je l'ai certainement connue. Je ne peux pas vous dire très exactement, mais enfin, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup plus de jeunes filles que vous ne croyez dans mes livres. Vous savez, il y a une chose qui me frappe beaucoup. Comme il y a en effet ce qu'on appelle, enfin en gros, des monstres dans mes livres, vous comprenez, que ce soit Monsieur Couture ou que ce soit Thérèse Esquerou, on ne voit que, vous comprenez, ou bien le héros d'une autre vipère. Mais on ne se rend pas compte que derrière eux, il y a tout un monde qui vit. Par exemple, dans le Nœud de Vipère, vous avez beaucoup de jeunes, vous avez des jeunes filles, je ne suis pas très présent à l'esprit.
Ah oui,
vous
avez mais des enfants. Je suis bien d'accord que vous avez des jeunes filles dans vos livres, mais je ne vois pas la jeune fille qui fait le premier amour du garçon avec un type physique, comme il y en a pour les peintres, n'est-ce pas?
Si. Vous le trouveriez, par exemple, dans Les Chemins de la Mer, ça, j'en suis sûr. Enfin, si, je suis sûr que si, ça, cher Hubert.
Mais vous devez savoir beaucoup mieux que moi.
Seulement, je vous crois que le fait que vous ne vous le rappelez pas, dans la mesure où vous avez lu mes livres, c'est que mes livres, c'est Thérèse Esquerou, c'est Monsieur Couture, c'est le héros d'une autre vipère. Vous comprenez, ce sont des personnages extrêmement marqués et comment dirais-je, enfin, un peu monstrueux.
Non, c'est parce que je pensais que c'est cette jeune fille qui fait le début d'une imagination que le dramaturge après impose à l'actrice. Oui. Soit qui découvre l'actrice, soit qui la transforme, et qui fait qu'alors il reconnaît son personnage en elle.
Mais alors là, vous touchez au mystère de la création. Vous avez peut-être raison, mais c'est peut-être plus mystérieux que ça.
Probablement.
Maurice Clavel. Puis-je commencer par une parenthèse en essayant de répondre à une question, modestement, à une question un peu anecdotique que posait François Mauriac? Et il m'a semblé, à la représentation du Feu sur la Terre, que votre actrice principale était une héroïne de théâtre et que votre acteur principal, qui m'a séduit infiniment, était un héros de roman. D'où les résonances plus profondes et plus nuancées de ce héros, mais il est évident, je crois, que dans ces conditions-là, le public ne doit moins remarquer les qualités, les prolongements romanesques d'un personnage que les qualités à proprement parler dramatiques. Mais ce n'est pas de cela que je voulais, c'était une hypothèse que je voulais vous soumettre. Je voulais vous parler au sujet de votre journalisme, et vous dites qu'il est devenu de moins en moins intime. Il ne me semble pas tellement. Je suis très frappé par le genre de journalisme que vous avez apporté. Je pense à tel ou tel de vos éditoriaux où vous parlez de vous-même, où vous parlez même de l'état, du décor dans lequel vous recevez une nouvelle, ou vous concevez une idée. Et je voulais vous... Donc, il me semble que ce journal est très... et que certains cris que vous poussez sont des plus intimes et des plus personnels. Alors, je voulais vous demander, est-ce que vous personnalisez ainsi le journalisme par tempérament, simplement, ou bien pour essayer d'en faire une arme plus efficace de contagion et de, disons, de salut individuel, disant que seul un individu peut parler plus efficacement à des individus. Voilà ce que je voulais vous demander.
Oui, parce que tout à l'heure, n'est-ce pas, je crois que vous avez tout à fait raison, et tout à l'heure, je voulais simplement dire que mes sujets ont changé, je veux dire que mes sujets sont devenus politiques. Maintenant, je reconnais que... Enfin, je crois que ce que vous dites est vrai, que j'apporte, si vous voulez, dans des sujets qui touchent à la politique, mon tempérament personnel. Et alors là, autant que la volonté peut jouer dans ces sortes de choses... Je crois que ça vient de cette très, comment dirais-je, de cette très, de cette conscience que j'ai comme écrivain, je dois le dire, enfin je me fais des compliments à moi-même, qui fait que, vous comprenez, pour moi un article de journal, c'est pas le papier que l'on a, hein, j'y passe, j'en fais plus qu'un par semaine, tout mon dimanche, et je le fais. Et je suis, si vous voulez, dans le même état de transe, enfin je parle à un écrivain, n'est-ce pas, que je pourrais être quand j'écris une page de roman, enfin je suis exactement le même, vous comprenez.
Alors il me reste une dernière chose à vous demander, est-ce que vous n'êtes pas tenté, en prolongeant cet effort, de faire quelque chose que vous n'avez, je crois, jamais fait, vous ayant d'un côté fait une œuvre, je ne dis pas intemporelle, mais qui pourrait quand même se passer n'importe laquelle de ces dernières années, et d'autre part, des éditoriaux au jour le jour, est-ce que vous n'êtes pas tenté par une œuvre que je n'appellerai pas du vilain nom d'engagé, mais une œuvre qui pourrait n'être écrite que maintenant, et où vous prendriez position sur des problèmes, où vous prendriez position sous forme d'œuvre et non plus sous forme d'éditorial sur les problèmes auxquels vous répondez dans vos éditoriaux.
Alors là, je vais répondre avec beaucoup d'humilité que je ne suis pas assez intelligent pour ça. Je veux dire que je suis capable, vous comprenez, de traiter un sujet. Je dirais, mettons en gros poétiquement, vous comprenez, touche-t-il à la politique. Mais dès que je fais un. N'est-ce pas, si je me mets en face d'un travail, ce qui s'appelle un travail, eh bien, remarquez que je l'ai fait quelquefois, mais c'était assez faible, pour dire la vérité, vous comprenez, parce que je ne suis pas, il faut que je sois porté tout le temps, n'est-ce pas?
Docteur Marc.
À propos du mot « trans » que M. François Mauriac vient de prononcer, je voulais justement lui poser la question suivante. Lorsque vous écrivez un roman et que vous le relisez ensuite, lorsque vous faites une pièce de théâtre et que vous assistez à une ou plusieurs représentations, avez-vous dans les deux cas la même sensation de délivrance, le sentiment d'avoir créé un roman ou une œuvre d'art un peu malgré vous, sans contrôler absolument vos moyens d'expression, ou bien y a-t-il une différence essentielle ?
Pour moi, il y a une différence essentielle. Ce que vous dites, je l'éprouve pour le roman. Je ne l'éprouve pas du tout au théâtre. Et comme vous me posez cette question maintenant à brûle pour point, j'aurais besoin de réfléchir un peu pour savoir, pour en connaître la raison. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que dans le roman, je me retrouve moi directement, n'est-ce pas ? Je vois très bien, car quand j'écrivais des romans, je dis quand j'écrivais, parce que je suis assez longtemps sans en publier, je ne peux pas écrire un roman... en deux mois, non, chaque jour, quand je suis dans un roman, chaque jour, je vais jusqu'à un certain point où je sens qu'il faut que je m'arrête et que je ne suis plus porté. Et d'ailleurs, on verrait, je crois que dans mes livres, pour moi du moins, je vois très bien les points d'affaiblissement, n'est-ce pas, où je tombais en quelque sorte, parce que j'étais à bout de course et que je me suis arrêté trop tard, n'est-ce pas ? Et là, dans la pièce, je n'éprouve pas ça du tout. Dans la pièce, je me trouve devant autre chose.
Et est-ce que cette inspiration que vous sentez éclater, exploser en vous, se produit-elle à des heures fixes ? C'est une question qui m'intéresse beaucoup.
Oui.
Ou bien attendez-vous précisément de sentir en vous cette espèce de déclic qui vous avertit inconsciemment que vous êtes prêt à créer ?
Oui, ça, j'hésite beaucoup à répondre parce que je ne voudrais pas vous donner un renseignement faux et que ces choses-là ne sont pas assez précises. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est un temps, une époque dans laquelle je suis dans un roman, n'est-ce pas ? Et c'est pendant cette période où je suis dans un roman, eh bien, ce n'est en général pas le matin, il me semble. Enfin, c'est la journée, le soir. Mais enfin, je sais que chaque jour, j'ai, si vous voulez, quelque chose à donner, vous comprenez ? C'est une période, vous comprenez.
En tout cas, il est très remarquable que vous ayez employé le mot « trans » au sujet d'un article du Figaro.
Oui.
Cela nous prouve, à mon avis, tout au moins, combien vous y mettez d'affectivité.
Oui, et si vous voulez que je vous donne alors un petit renseignement de plus, c'est que je fais un premier jet que je dicte, en général, que je dicte à ma femme, n'est-ce pas ? Mais tout, ensuite, je reprends ce texte, et ce que j'ajoute... Tout ce que j'ajoute alors à la main, n'est-ce pas ? En général, c'est la conclusion. Et là, c'est de l'affectivité pure, en général, n'est-ce pas ?
Jean-Pierre Morphée.
Je suis bien obligé d'accepter ce que dit Monsieur François Mauriac sur lui-même, mais j'avais cru jusque-là tout de même que Thérèse d'Esquerou avait une importance particulière dans son œuvre par son retour dans la fin de la nuit et même par des nouvelles comme Thérèse chez le médecin ou Thérèse à l'hôtel. Alors, je voudrais vous demander si, puisque le personnage ne vous intéresse pas plus que d'autres personnages, est-ce que c'est tout de même le problème particulier de Thérèse qui vous intéresse, c'est-à-dire qu'elle est tout de même le seul de vos personnages qui aille jusqu'au crime, ou jusqu'à la tentative de crime, ce qui revient au même, c'est en tout cas le seul assassinat ou la seule tentative d'assassinat de vos livres, c'est donc le personnage qui accomplit envers les autres l'acte maximum de tentative de liberté ou de libération, et ensuite, cet acte le conduit aux limites de la folie. Est-ce que c'est justement ce problème et de liberté et de conséquence de la liberté qui vous intéresse en elle pour que vous y reveniez tout de même si souvent?
N'est-ce pas Thérèse d'Esquerou, le livre qui s'appelle Thérèse d'Esquerou, la première fois qu'elle a paru, je sais d'ailleurs très bien d'où elle vient. Je pourrais indiquer les sources, si vous voulez, extérieures à moi-même de Thérèse d'Esquerou, n'est-ce pas? Mais évidemment, je la portais aussi en moi. Et évidemment, là, elle est sortie de moi, en quelque sorte, malgré moi, n'est-ce pas ? Mais peut-être que j'ai été moi-même impressionné, si vous voulez, par le succès qu'elle a eu, si j'ose dire, et par l'intérêt qu'elle a éveillé. Et j'y suis revenu, mais alors du dehors, vous comprenez ? Et ça, je ne sais pas si vous savez que Sartre a écrit un article très, très sévère et très dur sur moi.
Sur la liberté.
Et cet article... Cet article porte uniquement sur la fin de la nuit, n'est-ce pas? Sur la fin de la nuit, j'ai même le sentiment qu'il n'a pas lu mes autres livres, parce que chaque fois qu'il fait une allusion à moi, il se réfère toujours à ce livre. Et la fin de la nuit, ce n'est pas parce que certains ont dit du mal que moi, mais je crois que la fin de la nuit a ses mérites. Mais c'est évidemment un livre, si vous voulez, où je suis revenu du dehors sur un personnage donné par moi. Mais vous comprenez je me suis mis à tourner autour et à m'intéresser au cas Thérèse, vous comprenez, et à en faire le pivot d'une action dramatique. Mais vous comprenez ce que je veux dire?
Je comprends très bien.
Ce n'était plus ce personnage
direct
qui est sorti de moi malgré moi. Et j'étais un peu, si vous voulez, subjugué par elle. Mais alors je l'ai prise par un autre côté, et c'est pour ça que le livre, à mon avis, est moins bon.
C'est ce qui justifie, dans une certaine mesure, les critiques de Sartre, sauf qu'elles concernent un livre et non le romancier.
Et sauf que depuis, Sartre a prouvé à quel point il crée des personnages peu libres, n'est-ce pas, et infiniment moins libres que les miens.
D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi Thérèse d'Esquerou serait plus libre qu'un autre personnage, parce qu'elle a été jusqu'au crime. Le crime est plutôt une fatalité qu'une liberté, non?
Non, mais je crois que dans le sens de libre, là, il s'agissait de la liberté des personnages envers leur créateur.
Oui, par rapport à leur créateur, n'est-ce pas? Mais alors, enfin, là, il vaut mieux pas nous engager dans cette voie.
Mais voulez-vous que nous revenions des personnages de M. François Mauriac et M. François Mauriac lui-même? Vous aviez une question à poser?
J'avais une question à poser et qui, en somme, nous ramène indirectement à l'auteur. C'est que si l'on écrit en transe, si l'on se livre à son inspiration d'une manière aussi totale que nous le décrit Monsieur François Mauriac, on ne peut pas parler de liberté de ses personnages. Plus l'auteur est inspiré, plus il crée dans une sorte d'état second, et plus ses personnages, c'est lui-même, sont lui-même.
Dans la mesure où mes personnages sont moi-même, je ne vois pas en quoi ça leur enlève de la liberté. Ils sont moi-même agissant, aimant, souffrant, tuant, si vous voulez, mais ils sont aussi libres que je le suis moi-même, enfin, ni plus ni moins.
Mais alors là, nous revenons à la question de la liberté chez le créateur, et on pourrait gloser très longuement sur ce chapitre.
Surtout que nous sommes en train de confondre deux libertés.
Oui, alors ne glosons pas. Monsieur François Mauriac, je voudrais, comme je le disais il y a un instant, revenir à vous-même et vous poser certaines questions sur votre enfance, dont vous avez du reste parlé dans votre ouvrage « Commencement d'une vie ». Mais enfin, vous n'avez peut-être pas tout dit dans cet ouvrage. Et je voulais vous demander si, en particulier, dans votre enfance, qui était une enfance triste, vous l'avez décrit vous-même...
Non, pas exactement. Pas exactement, enfin, triste et gay. Enfin,
triste et gay, oui.
J'aurais beaucoup à dire. Très intense.
Très intense. Si vous avez eu quelquefois le désir de fuir.
Si j'ai eu le désir de fuir, non, vraiment. vraiment je peux répondre là, enfin, autant qu'on peut répondre d'une façon absolue, parce que n'ai-je pas eu à... Je n'en ai pas le souvenir, mais ce que je peux dire, c'est que j'étais un enfant très... Je suis resté d'ailleurs un homme très sédentaire, très prisonnier de... Enfin, de son nid, de son atmosphère, très désorienté par le... par l'ailleurs, enfin, extrêmement peu appelé par... n'est-ce pas, par cette... enfin, comme son temps d'adolescent, enfin, temps d'enfant d'adolescent, par ailleurs, non. Au contraire, j'ai toujours été ramené à mon centre, vous comprenez.
Oui, vous avez expliqué comment vous préfériez toujours être enfermé dans une chambre, oui. Et de préférence seul.
Oui, c'est cela.
Mais c'était également une espèce de fuite. Alors,
la fuite à l'intérieur, si vous voulez.
Alors, elle ne s'est jamais manifestée qu'à l'intérieur.
Non, non, non.
Vous n'avez même pas eu à Bordeaux l'appel de...
Absolument pas. Et à mesure que ma vie s'est déroulée, je suis resté très réfractaire au voyage. Enfin, j'ai incroyablement peu voyagé. Pour mon âge, comme dit.
Le besoin de solitude était aussi fort par rapport aux frères, parce que je crois que vous aviez deux frères, n'est-ce pas?
J'avais trois frères. Trois frères. Ben, vous savez, nous formions... évidemment que pour moi, le rêve de ma jeunesse, de mon enfance, qui d'ailleurs n'a pas été comblé, c'était d'avoir ma chambre à moi tout seul.
Ah oui.
Pour moi, le bonheur... Et j'avais une chambre que je partageais avec un de mes frères, n'est-ce pas? Et, enfin... Quand je voyais un ami qui avait une chambre à lui tout seul, enfin, c'était pour moi le rêve. Comment ne me suis-je pas fait moine après ça? C'est extraordinaire.
Et est-ce que ce besoin de fuite intérieure dans la solitude n'a pas engendré chez vous, et pourquoi n'a-t-il pas engendré, un besoin d'anarchie? Je suis enclin de temps en temps à vous comparer à Maurice Barrès. Et je voulais vous demander pourquoi, précisément, avec ce besoin de fuite et d'intériorité, alors que vous étiez dans un cadre qui vous enserrait, auquel vous teniez par des racines profondes, n'avez-vous jamais écrit, n'avez-vous jamais pensé, même en rêve, votre ennemi des lois, par exemple? Et qu'est-ce qui vous a gardé de l'anarchie avec ce besoin de solitude et d'évasion?
D'abord, là, je ne suis pas très sûr que je me sois si bien gardé de l'anarchie. Là, il y aurait beaucoup à dire. Mais Barrès... d'ailleurs, c'est la preuve, c'est que le seul Barrès que j'ai vraiment aimé et qui a vraiment agi sur moi, c'est le Barrès de Soleil des Barbares, de l'Homme Libre, n'est-ce pas? C'est-à-dire le Barrès anarchique. Et du jour où Barrès s'est mis un corset, si j'ose dire, enfin, la terre, les morts de nationalisme, enfin, je lui ai toujours gardé toute mon admiration et toute mon affection, mais je peux dire que je l'ai senti plus loin de... Plus loin de moi.
Y a-t-il eu chez vous cette phase d'anarchie?
Elle a toujours été. Croyez-vous que je serais si bon catholique si je n'étais pas anarchiste?
C'est ce qui nous plairait que vous expliquiez, si c'est possible.
Lui, il n'était pas très catholique et il était anarchiste, oui. Barrès.
Oui, mais alors, comme il n'avait pas le catholicisme, d'ailleurs qu'il a pris à la fin sous une forme assez médiocre.
Oui, mais ce n'est pas vrai.
Mais alors justement, il a eu toute une idéologie, tout de même,
oui,
qu'il
oui.
soutenait. Vous savez, le Barrès que j'ai vu dans ma jeunesse, allant à la statue de Strasbourg, à la tête de la Ligue des Patriotes, faisait quelque chose de bien plus extraordinaire que moi quand je suis la procession, vous savez.
Oui, mais enfin, il ne croyait pas en Dieu, et c'est tout de même une très grande différence.
Ah si, il croyait en Dieu à la fin, peut-être, je ne sais pas.
Et les rapports entre votre anarchie et votre catholicisme, s'ils se peuvent expliquer ici?
N'est-ce pas, je veux dire qu'il faudrait savoir ce que vous appelez par anarchie, mais je veux dire que pour moi, le christianisme, enfin, n'est-ce pas, le christianisme, c'est ce qui donne un sens à la vie, n'est-ce pas, donne, si vous voulez... une explication, enfin, est une réponse, si vous voulez, à l'absurde.
C'est ça.
C'est dans cette mesure que je ne suis pas d'énergie.
Alors, puis-je vous demander pourquoi cela pourrait étonner certains de vos fidèles, de ceux qui vous sont fidèles personnellement? Pourquoi n'êtes-vous pas, précisément, à l'intérieur du catholicisme, dans une position peut-être plus anarchiste que la vôtre, n'est-ce pas? Pourquoi la position de François Mauriac n'est pas plus voisine, je ne dis pas de celle de Léon Blois, mais celle de Georges Bernanos? Pourquoi évite-t-il de quelquefois de secouer les iniquités au sein même de son corps?
Oui, alors là, vous posez une question très intéressante, n'est-ce pas? Et le défaut d'ailleurs de cette conversation, c'est que on voudrait pouvoir vous dire, laissez-moi le temps de réfléchir 2 ou 3 minutes, parce que tout de même, remarquez que là, il y a, je crois, une question de tempérament. Parce que D'abord, non, il y a une première question qui est que je suis un enfant des pères tout de même, que j'ai été élevé dans un grand respect, dans une... et que ça reste, vous comprenez. Moi, je pourrais vous donner là-dessus beaucoup de détails. Évidemment, on garde ces réflexes d'enfant qui fait que je ne pourrais pas engueuler les évêques, n'est-ce pas, ou même parler. Ouais, il y a chez moi quelque chose, si vous voulez, une espèce de sens du respect, il n'y a pas d'autre mot. Mais alors, il y a aussi une question de tempérament. Quoiqu'après tout, je puisse être très violent dans la polémique et... Mais non, alors je crois que c'est le respect du sacré, enfin, incarné dans l'Église qui me retient.
Docteur,
Je crois qu'il ne suffit pas d'être élevé très strictement par les pères pour garder la position que M. Mauriac vient de nous décrire. Et je me demande s'il n'y a pas précisément dans cette situation très formelle et très stricte que Clavel montrait tout à l'heure, un peu différente de celle d'un Bernanos, s'il n'y a pas là... peut-être inconsciemment, une position qui calme et qui est un remède à certaines formes d'angoisse. Car l'édifice de la foi, ceci, je parle d'une manière, je parle simplement en tant que psychologue et sans m'occuper de la question sur un autre plan, mais l'édifice de la foi peut vous paraître peut-être, c'est une question que je vous pose, comme un tout, extrêmement solide, bien sûr, mais auquel il ne faut pas toucher. Car si l'on y touche, ou si l'on se trouve, si l'on prend une attitude non conformiste à cet égard, on peut avoir le sentiment, je répète, peut-être inconscient, que on va se trouver dépourvu de cette armature solide qui vous soutient et qui constitue une coque de protection à l'intérieur de laquelle on se trouve bien tranquille, calmé, comme, étant petit, vous auriez été calmé dans une chambre, tout seul, en tête-à-tête avec vous-même. C'est une simple hypothèse que je fais là pour obtenir une réponse.
Écoutez, docteur, ce que je crois... Mais alors là, je vais dire une chose que je trouve peut-être bien intime, mais enfin, tant pis, puisque nous sommes là pour ça. Je crois, vous comprenez, que la foi d'un Léon Blois, par exemple, et la foi d'un Bernanos est d'une qualité très supérieure à la mienne, n'est-ce pas? Et que ce sont des... et qu'ils se déchaînent à l'intérieur de quelque chose qui, pour eux, est une vérité, comment dirais-je, enfin, qu'ils touchent. Donc, la foi de Bernanos était quelque chose d'extraordinaire, d'admirable. La mienne est d'une bien moins bonne qualité. Vous comprenez, bien moins bonne qualité. Et par conséquent, si vous voulez, remarquez que je n'ai jamais été considéré dans l'Église comme quelqu'un de tout repos. Au contraire, dès le collège, j'étais considéré comme un très mauvais esprit. Et aujourd'hui encore, je suis pas quelqu'un sur qui on compte, vous comprenez? Et moi-même, j'en ai conscience, si vous voulez. Et quoi que je sois, je tienne extrêmement à ma foi. Je ne dis pas du tout que je n'ai pas la foi, faites bien attention. Je dis, j'ai une foi très vive et très... Mais je n'ai pas cette qualité de foi qui permettait à un Bernanos et à un Blois de se déchaîner. Moi, vous comprenez, je suis tenu à beaucoup plus près.
Écoutez, justement, moi, je m'étais dit tout à l'heure, en vous entendant, qu'il était curieux de dire « c'est le respect du sacré qui m'empêche de... » Car presque toutes les protestations, genre Bernanos ou Blois, viennent précisément du respect du sacré, oui, n'est-ce pas? Par conséquent, ce serait presque le contraire.
Oui.
Et alors, le problème reste là. Le problème est de savoir pourquoi vous respectez au nom du sacré ce qui est certainement pas le sacré lui-même.
Mais je crois que M. François Mauriac a répondu en disant que c'est aussi une affaire de tempérament et qu'il a été marqué. Alors seulement, je vais vous poser une question humaine, sur le plan désormais humain. Est-ce que cela ne vous crée pas en politique, au sens très large et très humain, vous l'entendez, un sentiment terrible de responsabilité personnelle? Autrement dit, est-ce que vous n'êtes pas tenté quelquefois, sachant que vous avez un tempérament et que vous êtes marqué, ne serait-ce que pouvoir toucher davantage autrui, de vous démarquer? Et de lutter contre ce tempérament, ne serait-ce que pour pouvoir rejoindre autrui en toute impartialité. Et dans la mesure où vous ne le faites pas, n'avez-vous pas mauvaise conscience?
Oui, je ne cache pas du tout que depuis que je suis amené justement à faire des articles politiques, j'ai très souvent mauvaise conscience. Non pas, vous comprenez, non pas que je dise des choses que je ne pense pas, mais par la position que je prends, que je défends de certaines choses que je n'aime pas et que je crois et que je ne crois pas vraies, n'est-ce pas? Et évidemment, le journalisme représente, à ce point de vue-là, de très grandes servitudes. Et je me suis très souvent posé cette question. Et à chaque instant, d'ailleurs, si je figure dans le... Si je figure que dans le dictionnaire des girouettes, n'est-ce pas, c'est parce qu'en effet, n'est-ce pas, il y a des questions, il y a tellement de façons de prendre les questions, n'est-ce pas, et quelquefois à peine a-t-on soutenu la thèse, n'est-ce pas, que l'antithèse vous apparaît avec toute sa force. Mais quoi, le journalisme a ses servitudes, c'est un genre.
Docteur, vous avez quelque chose à dire ?
Non, je voulais faire remarquer que ce que M. Mauriac vient de nous dire correspond à ce que nous avons relevé tout à l'heure de cette irruption, de cette affectivité, même dans sa manière de faire du journalisme. On peut très bien concevoir que les sentiments n'étant jamais simples et étant souvent contradictoires, les différentes tendances qui sont en vous peuvent se manifester successivement et vous gêner parfois.
Parfait, surtout les réactions que l'on... tout à coup, ça vous appelle, la même question vous apparaît sous un jour tout nouveau, n'est-ce pas? Je fais par exemple, vous comprenez, je fais un article par exemple sur les captifs, n'est-ce pas, sur la charité envers les prisonniers, n'est-ce pas? Très bien, mais je lis dans une revue 8 jours après, n'est-ce pas, comment dirais-je, sur ce plan-là, alors, toute une sorte de mobilisation politique, vous comprenez, dans l'autre sens, je ne veux pas toucher à des sujets brûlants, mais... qui tout à coup vous rejette de l'autre côté, vous comprenez, et tout est comme ça, n'est-ce pas, les questions ont des faces tellement différentes, n'est-ce pas, que...
Est-ce que dans cette angoisse et dans ce changement de face, il n'y entre pas, vous croyez, pour beaucoup, tout à coup une certaine peur de déplaire, tout à coup une certaine envie de plaire?
Non, parce qu'écoutez, moi je ne peux pas dire que... Si mon désir était de plaire, je jouerais bien mal, n'est-ce pas?
Voulez-vous me permettre, M. François-Marie, de revenir un instant à votre enfance? Je voulais vous demander si, parmi les professeurs que vous avez eus, il y en a un pour qui vous ayez eu, comme souvent certains élèves, un culte.
Un culte, c'est beaucoup trop dire. Je n'ai jamais eu un culte. Mais il y en a un que j'aimais beaucoup, qui était mon professeur. C'est ce qu'on appelait en ce temps-là la reine de rhétorique, enfin... ce qu'on appelle la première maintenant, qui était un prêtre qui est mort aujourd'hui, qui s'appelait l'abbé Péquignot et qui a formé des générations de jeunes bordelais, et qui était merveilleux, je dois dire.
Vous étiez déjà un adolescent, forcément, parce que vous étiez en classe de première.
Ah, ben j'avais 16 ans, j'avais 16 ans. Et vrai, je veux dire que ce qu'il avait de bien, c'est que tout de même, les matières de cours étaient vivantes, vous comprenez, je veux dire que c'est à partir de lui que j'ai compris, enfin que j'ai compris, que j'ai aimé Pascal, par exemple, que j'ai aimé Montaigne. C'était autre chose que des matières de cours. Il voulait dire, je ne sais pas si ces cours étaient très remarquables.
Mais il ne s'occupait pas de vous en dehors des sujets d'études, non?
Si, pas beaucoup, sauf qu'il était notre confesseur, qu'il était le mien.
Oui, mais ça ne ressemble pas au rapport, mettons, de Mauroy avec Chartier.
Ah, pas du
Calin,
tout. Ça vous amusera peut-être de savoir que je me suis fait recaler à ma philosophie, je l'ai redoublé, et comme j'étais très orgueilleux, et que je ne voulais pas revenir redoubler dans mon collège, j'étais au lycée. Et j'ai fait ma philosophie au lycée de Bordeaux, où j'ai eu comme professeur M. Drouin, qui était le beau-frère d'André Gide. Et parce que j'ai vu que Gide, dans un livre autre jour, j'ai vu une lettre où il disait que j'avais été l'élève de Drouin au lycée Carnot, c'est pas vrai, non, j'étais son élève à Bordeaux. Et croyez-vous, je ne me rappelle pas si à ce moment-là, c'est curieux, c'est trop de mémoire que l'on a, je ne me rappelle pas si à ce moment-là je connaissais Gide, et si je savais que j'avais comme professeur le beau-frère d'André Gide. Ça, je ne me rappelle pas.
Je ne peux pas vous en souvenir.
Ça, je ne m'en souviens pas.
Jean-Pierre Morphy.
Comment se fait que vous n'ayez pas continué le journal personnel et que le 4e volume publié sous le nom de journal soit le recueil des articles au lieu d'être le 4e volume succédant aux 3 volumes du journal personnel?
Mais le journal personnel, cher monsieur, ce sont des articles de journaux aussi.
Voilà qui s'appliquait à Mozart, qui s'appliquait à Salzbourg, qui s'appliquait à des souvenirs personnels.
Mais comme vous me voyez de temps en temps, même aujourd'hui encore, faire des articles sur amoureuses ou sur... sur des choses que je viens... que j'ai fait aussi sur Aix-en-Provence. Enfin, ça m'arrive quelquefois encore, moins souvent.
Et vous n'avez jamais eu le désir de publier ou de tenir simplement un journal où vous pourriez tout dire?
Eh bien, si, j'en ai gardé le désir, mais comme je faisais des romans, en même temps, c'était la période où je faisais de très nombreux... Enfin, où je faisais un roman presque tous les deux ans à peu près. Et alors, le journal que je tenais, finissait toujours par passer dans le roman, cette utilisation de... Mais oui, c'est vrai, ou bien le journal personnel dévore l'œuvre, ou bien l'œuvre dévore le journal. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir...
Je crois que c'est très juste.
Je ne crois pas qu'il puisse y avoir les deux, n'est-ce pas? Si Dubos avait fait un des romans, il n'aurait pas écrit son journal, naturellement.
Avant de vous libérer, mon cher maître, je voudrais encore vous poser une question, parce que nous sommes plusieurs depuis un long moment à vous interroger sur vous-même, mais c'est une forme d'interrogatoire à laquelle vous avez souvent procédé vous-même, sans doute. Alors, vous vous connaissez certainement beaucoup mieux que nous. Est-ce que je puis vous demander quel est, à votre avis, votre défaut essentiel?
Oh, monsieur, que c'est difficile de répondre. Que c'est difficile de répondre. Je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai beaucoup de défauts. Et quel est le... Je pourrais vous dire quel est celui que j'aime le moins.
C'est ça, celui que vous regrettez le plus.
Je suis rancunier. Je suis de ces chrétiens qui n'oublient rien.
J'espère malgré tout que vous ne nous en voudrez pas de vous avoir soumis à toutes ces questions. Mais je tremble un peu à l'idée de tirer de vos réponses une conclusion qui, en tout état de cause, s'avère difficile. Il faudrait toujours, pour être honnête, oublier tout ce que l'on sait du personnage que nous interrogeons pour ne tenir compte que de ce qu'il nous a dit. Mais c'est impossible. Et si l'on tient compte de ce que l'on sait, on a l'impression de porter un jugement sans avoir aucune qualité pour cela. J'ai beau rappeler souvent que cette émission n'est qu'un jeu, les auditeurs, aussi souvent, prennent ce jeu à ce point au sérieux qu'ils me reprochent de ne pas trancher avec vigueur, de n'être pas assez sévère, bref, de ne pas juger. Et il est bien vrai que parfois, ceux qui se soumettent à notre interrogatoire semblent avoir eux-mêmes le désir plus ou moins conscient d'être jugés pour ne pas dire pardonnés. Mais ces considérations générales ne sont, je le crains, qu'une fuite devant la conclusion à tirer de notre entretien avec M. François Mauriac. Je ne sais pas si nous avons réussi à lui arracher des confidences très différentes de celles qu'il a eu l'occasion d'écrire à tête reposée dans telle ou telle de ses œuvres, mais je suis certain que sa sincérité et sa bonne foi auront apparu à nos auditeurs autant qu'à nous-mêmes, tant dans ce qu'il nous a dit que dans le ton de ses propos, dans ses hésitations et dans ses silences mêmes. Bien entendu, et tout le monde le sait, M. François Mauriac est avant tout un catholique et, comme il l'a une fois de plus affirmé, c'est le christianisme qui donne un sens à sa vie, une réponse à l'absurde. Cette réponse, une fois posée, et posée pourrait-on dire a priori, il n'en est que plus à l'aise pour regarder en face ce monde absurde et pour en décrire toutes les horreurs. Mais il ne décrit pas qu'elles. Et ce sont les lecteurs, il l'a remarqué tout à l'heure, qui ne veulent retenir de ces personnages que les plus chargés de malédictions. Est-ce parce qu'il les aime davantage? Peut-être, encore que ce serait justement conforme à sa foi. Quant au personnage de M. François Mauriac lui-même, comment nous apparaît-il? Et d'abord, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, je vais demander à Catherine Gris de nous le décrire et de nous dire ce que l'on peut conclure de l'étude de son visage.
Le visage de M. François Mauriac est long, il a le front haut, les yeux bruns sombres, le sourcil relevé, son nez est long. Une petite moustache cache sa bouche qui est petite, son menton est bref. Sur l'ensemble des traits est imprimée comme une sorte de souffrance qui montre une hypersensibilité décorchée, une recherche vers la connaissance de soi qui donne à son visage un masque d'angoisse. De l'ensemble ressort, il me semble, en même temps que la possibilité de freiner ses passions, le sentiment que M. François Mauriac doit être le bourreau de soi-même.
Et vous, Jean Guyot, bien que n'ayant pas fait un test proprement dit, pouvez-vous tirer des réponses de M. François Mauriac une conclusion au point de vue caractériologique?
On trouve certainement dans ces réponses la preuve de l'émotivité et de la secondarité. L'émotivité est évidente. M. François Mauriac dit lui-même que lorsqu'il écrit, il est en transe. La secondarité, c'est le fait que les impressions ressenties continuent à retentir après avoir disparu du champ de la conscience. Cette secondarité est manifeste aussi, ne serait-ce que dans ce que M. François Mauriac appelle sa fuite vers l'intérieur. Si l'on ajoute à ce signalement l'activité, qui est incontestable, on arrive au type de caractère que la terminologie de Le Sen nomme le passionné. Comme exemple historique de passionné, Le Sen cite Napoléon, Pascal, Racine, Corneille, Flaubert, Michel-Ange, Pasteur.
Ce sont tout de même des hommes assez divers.
Avec des caractéristiques communes. L'intensité affective, la décision dans l'expression des opinions, une certaine agressivité, la puissance de travail, l'autorité, l'ascétisme et le goût de la grandeur. Enfin, Le Sen remarque que les principaux intérêts des passionnés sont la vie familiale, le patriotisme, l'attachement au passé et les sentiments religieux.
Je pense du reste que M. François Mauriac acceptera d'être rangé parmi les passionnés, aux côtés, entre autres, de Racine et de Pascal qui lui ont inspiré les ouvrages que l'on sait. Mais le mot me semble malgré tout trop vague pour le définir, et ce qui apparaît surtout lorsqu'on l'écoute, lorsqu'on le voit parler, c'est qu'il est l'objet d'un conflit constant dont on trouve évidemment les traces, les origines et le symbole dans ses souvenirs d'enfance, dans ce souvenir essentiellement de n'avoir pas eu une chambre à lui tout seul. Je ne veux pas faire appel à un sentiment de culpabilité qui aurait pu lui inspirer ce désir, mais ce désir si conscient a gardé toute sa virulence. Monsieur François Mauriac pleure encore après la chambre et l'isolement qui lui ont été refusés. On l'a mêlé au monde, jeté dans le monde. En veut-il encore au monde? Est-ce cela le fond de sa rancune? Il y a en tout cas dans son œuvre et en lui-même à la fois tout l'amour que lui inspire la créature dans son principe et toute l'horreur que peut inspirer son contact. Ce contraste est une torture suffisante pour qu'on écarte toute idée de complaisance à l'égard du monde tel qu'il est. Monsieur François Mauriac s'étonne à juste titre d'avoir pu le supporter. Mais nous pouvons nous en réjouir, car s'il avait eu sa cellule, s'il avait été moine, il n'aurait sans doute médité que sur lui seul et nous ne connaîtrions pas son œuvre.
Vous venez d'entendre « Qui êtes-vous, François Mauriac ?» avec Emmanuel Berle, Maurice Clavel, Catherine Gris, Jean Guyot, le docteur Martin et Jean-Pierre Morphée. Montage, Jacques Guinchard avec le concours des techniciens du centre d'enregistrement. Assistants, Maurice Béard et Gaston Morphée.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 7 janvier 1951. Rappelons que l'année suivante, elle a débuté l'écriture et la parution hebdomadaire dans Le Figaro, puis dans l'Express, du fameux bloc-notes. Bloc-notes que les éditions Robert Laffont, dans la collection Bouquins, republient en deux volumes.